Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est dans une société productiviste où le travail a une place centrale. D'ailleurs, on demande souvent aux gens quand on les rencontre « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» On est dans une société productiviste, mais aussi performatrice, où on essaie de tout optimiser. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de claquer la porte à tout ça avec une professeure de philosophie qui s'appelle Céline Marty, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux ». Et avec elle, on va déconstruire complètement cette notion autour du travail. On va parler aussi de l'impact que ça peut avoir sur l'écologie, l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et en fait, on va essayer d'expliquer comment cette valeur travail, c'est en fait finalement une croyance et qu'on peut totalement changer nos croyances. C'est un épisode vraiment intéressant parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas, alors qu'en fait, ce sont des questions centrales, je crois. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Céline.
Bonjour Grégory.
Comment tu vas aujourd'hui?
Bah très bien, et toi?
Eh ben écoute, ça va pas trop mal, il fait beau, je viens d'aller au marché, d'acheter des tonnes de fruits et ça, ça me met en joie.
C'est la meilleure saison de l'année.
C'est quand même un peu la meilleure saison de l'année, exactement. Je vais commencer par un sujet qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais en même temps c'est un podcast, donc autant se faire plaisir. Je voulais te parler d'André Gorz, parce que tu fais ta thèse sur son travail. Et en particulier, il a écrit un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle « La lettre AD », qui est sans doute l'un des plus belles déclarations d'amour que j'ai pu lire, en fait. Est-ce que tu peux nous parler d'André Gorz et de savoir qui c'était?
Oui, tout à fait. La lettre AD, il l'a écrite en 2006 et c'est vrai que ça a été un petit succès de librairie à ce moment-là. D'autant plus que le couple s'est suicidé un an après. Donc, au moment de leur décès aussi, le texte avait un peu, était revenu dans la sphère médiatique. André Gorz, c'est un philosophe européen, on pourrait dire, parce qu'il est né en 1923 en Autriche, dans une famille catholique et juive. Au moment de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche par Hitler, il est envoyé en Suisse pour faire des études d'ingénieur. Et en Suisse, il rencontre une certaine communauté philosophique, intellectuelle. Il découvre l'existentialisme de Sartre, il lit Hegel, il lit Kierkegaard. Il se détourne un peu de son intérêt, de ses études d'ingénieur. Il va rencontrer Sartre et ensuite en 49 il émigre à Paris et c'est à Lausanne qu'il a rencontré Dorine qui est elle-même anglaise et donc c'est déjà un couple européen et ensuite ils vont vivre toute leur vie en France et Gorz il était très proche de Sartre, il a participé au temps moderne et très proche de ce qu'on a appelé ensuite la nouvelle gauche parce que tout l'enjeu dans les années 50 c'est de savoir comment on réactualise la critique sociale, la critique du capitalisme dans un contexte des années 50 où il y a la guerre froide et où en même temps on ne veut pas non plus imiter l'URSS. Donc il y a un certain nombre d'intellectuels un peu partout en Europe, aux États-Unis aussi, qui essayent de construire un modèle socialiste alternatif à l'URSS et Gorz participe à ce mouvement-là aussi. Notamment dans la revue Les Temps modernes, il discute avec Sartre, avec Merleau-Ponty. Et il participe à la fondation de la Nouvelle Gauche qui va s'incarner ensuite plus tard dans la CFDT et dans le PS. PS qui était beaucoup plus révolutionnaire dans les années 70 qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est tout un contexte intellectuel et politique très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui aussi parce que le PC était très fort après la Seconde Guerre mondiale et en même temps, ça a beaucoup changé dans les années 50 parce qu'il y a justement eu la stalinisation des partis communistes un peu partout en Europe. Donc l'enjeu pour Gore, c'est de savoir comment on critique les nouvelles formes du capitalisme dans les années 50, à savoir une société de consommation, une société où le travail aliéné est vraiment présent au sens où c'est la diffusion aussi des méthodes tayloristes d'organisation du travail. Et en même temps, le travail, c'est pas uniquement les ouvriers dans les usines, c'est aussi les employés. Il y a l'émergence de cette nouvelle classe sociale que sont les employés, les fonctionnaires aussi, avec des conditions de travail très différentes. Et du coup, lui, son propos, c'est de réactualiser la critique marxiste dans ce contexte un peu différent du capitalisme industriel pensé par Marx. Et ensuite, à partir des années... donc, dès les années 60, il critique déjà la production capitaliste en disant qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de marchandises qui servent à rien, à part nous faire consommer plus, en plus détruire, gâcher du travail humain et des ressources environnementales et naturelles pour le faire. Et à partir des années 70, il développe de plus en plus cette critique écologique il est considéré comme un des pères de l'écologie politique en France et de la décroissance aussi. C'est l'un des premiers à avoir dit qu'il fallait produire moins, travailler moins pour consommer moins, mais pour vivre mieux aussi, parce que en transformant ce qu'on consommait, les marchandises quotidiennes, on allait aussi pouvoir, en améliorant leur qualité, on allait pouvoir réduire aussi le temps qu'on passait à les produire et pour gagner du temps, pour faire autre chose que juste satisfaire nos besoins. Donc voilà pour le parcours. Et il est mort en 2007 et donc il a vu aussi toutes les évolutions du capitalisme dans les années 80, le numérique, l'informatique. Il croyait beaucoup, par exemple, dans les Fab Labs comme une façon, les imprimantes 3D, comme une façon de ne plus dépendre du marché pour satisfaire nos besoins, parce que si tu as une imprimante 3D à disposition, alors pas forcément chez toi, mais dans les locaux, par exemple, de ta ville, ça va te permettre de bricoler certains trucs que tu aurais pas pu faire sans cet outil-là. Donc, c'est une façon aussi de transformer la production, même qu'habituellement, enfin, on aurait consommé de façon industrielle, et là, de l'adapter plus précisément à tes besoins ponctuels, disons.
C'est aussi le créateur du Nouvel Obs, si je ne me trompe pas.
Oui, en fait, il a été journaliste toute sa carrière. Et d'abord, il a travaillé chez L'Express. L'Express qui avait été fondé pour soutenir Chaban Delmas. Et à partir des années 60... c'est en 64 qu'il quitte l'Express avec d'autres journalistes et qu'il cofonde le Nouvel Obs.
D'accord. Un des points que tu as abordé et dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, je crois, c'est que le capitalisme et l'individualisme sont en réalité des croyances.
Oui.
Et en fait, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de la chute des croyances, en particulier parce qu'on pense aux croyances religieuses, dogmatiques. Mais en fait, il y a une croyance hyper dogmatique qu'est le capitalisme cette valeur travail. Est-ce que ce que tu t'es dit, c'était dans une démarche un peu socratique, c'est-à-dire de se reposer des questions simples, dire mais en fait, attends, c'est quoi cette histoire autour du travail? Pourquoi on travaille comme ça, en fait, quelque part?
Oui, alors tout système produit des croyances, des idées, des principes pour se maintenir. Tout système a toujours un principe idéologique qui va lui permettre de se maintenir dans le temps. Et sans cette dimension de croyance, sans cette dimension idéologique, les choses ne tiennent pas. Parce que nous, êtres humains, on est des êtres qui cherchons du sens dans les choses, on cherche du sens à ce qu'on fait, à nos vies, etc.